Préparez-vous à cœur à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu, Amen. L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Connectez-vous toujours très 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 nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. L'air de la vérité, c'est aussi votre émission de la solution. Ah, vous tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous l'avez suivi, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Pour vous servir, mesdames et messieurs, je demeure toujours votre très humble serviteur. Une fois de plus, mesdames et messieurs, soyez tous bénis et recevez vraiment nos sincères et chaleureuses salutations. Vous avez très bien fait d'être à l'écoute. Et nous croyons que si le Seigneur a permis que nous puissions encore honorer ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique, ce n'est pas en vain. Parce que cette émission, l'aide de la vérité, a pour vision, pour mission de partager la vérité biblique avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité et la vérité vous rendra libre. Et il est aussi écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme promis, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir un grand chapitre consacré à la famille. Oui, donc, autant que le Seigneur le permettra, nous allons consacrer une série d'émissions à la famille et pourquoi pas par extension à la société. Parce que cette émission se veut aussi éducative. C'est cette raison que je vous disais la dernière fois que Nous essayons de tout faire afin de varier cette émission dans tous les sens, afin que vous puissiez être vraiment édifiés. Et c'est pour cette raison que lorsque vous dormez, nous ne dormons pas, travaillons dans ce sens, afin de vous offrir des émissions, des qualités, des émissions qui vont vraiment vous édifier, qui vont essayer de toucher tous les aspects de notre quotidien, tous les aspects de notre vie. Et installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Comme je venais de le dire tantôt, nous allons ouvrir un grand chapitre consacré particulièrement à la famille. Et quand je parle de la famille, il y a le père, la mère, les enfants, les frères et sœurs, et ainsi de suite. Comme toujours, vous êtes invités à avoir un stylo et sur quoi noter, afin que votre foi soit fondée uniquement sur les Saintes Écritures. Oui, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, et gardez tout simplement l'écoute. Si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Avant d'entrer sur ce grand sujet qui va nous préoccuper, à savoir la famille, nous allons essayer de nous pencher sur cette question de ce fidèle auditeur qui a écrit depuis le projet du Noun, Gaston Maman, qui pose particulièrement cette question. Pasteur, quelle est la position des enfants illégitimes? Seront-ils bénis ou non? C'est une question de Gaston Maman, depuis le projet Route du Noun, qui est également fidèle auditeur de cette émission. Sa question est, quelle est la position des enfants illégitimes? Seront-ils bénis ou non? C'est vrai que Dieu, dans son plan parfait, avait prévu le sexe pour que cela soit exploité uniquement dans le cadre du mariage. Ainsi, dans le plan parfait de Dieu, les enfants devraient naître également dans un foyer. Oui, dans un foyer où les gens se sont unis dans les liens du mariage de façon légale et qui glorifie Dieu. Voilà le plan parfait de Dieu. Donc Dieu n'avait jamais prévu qu'il y ait des relations sexuelles hors mariage. Malheureusement, nous sommes dans une société où les choses vont la plupart du temps à l'envers. Non seulement les gens, la plupart du temps, ont des relations hors mariage, parfois, la conséquence de cette relation, c'est un enfant ou les enfants. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver des enfants qui sont nés hors mariage. C'est vrai que dans ce cas, l'enfant n'est que le résultat de cette union et il n'a pas choisi d'être là. Car cela ne tienne. Étant donné que tout ce qu'on sème, on récolte aussi, c'est un verset biblique, Galates 6. La Bible dit clairement dans Exode 20 que, par exemple, si nous lisons particulièrement le verset 5, Tu ne te prosterneras point devant, qu'elle tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Dans cette portion des Saintes Écritures, Dieu avait dit dans les 10 commandements que il punit l'iniquité des pères, même sur les enfants, jusqu'à la quatrième génération. C'est ce que Dieu avait dit dans la loi qu'il avait donnée à Israël, dans les 10 commandements. Donc, quelque part, les péchés que les parents commettent, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, peuvent avoir un impact sur les progénitures. Oui, c'est une réalité. D'ailleurs, le constat est là. Parfois, beaucoup d'enfants sont venus au monde ayant hérité certaines malédictions de leurs parents. Tout simplement parce que les parents ne connaissaient pas Dieu ou bien se sont liés à des mauvais esprits ou ont fait des pactes avec le monde de Satan. Et les enfants viennent au monde et commencent à subir ces choses. Ce qui est tout à fait facile à comprendre. Mais, à un moment donné, Dieu va dire ceci. Écoutons attentivement ce que Dieu va dire à un moment donné. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 18. Écoutez attentivement. Nous sommes dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 18. Voici ce que les 3 premiers versets vont nous dire. D'abord les 3 premiers versets. Après nous allons continuer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Verset 3. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes. Voilà. Dieu a dit qu'il y avait un proverbe. Ce proverbe, c'était quoi? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et le Seigneur dit que désormais, il n'en sera plus ainsi. Il va supprimer ce proverbe. Et maintenant, voici ce que Dieu va continuer à dire au verset 14. Nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 18. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, écoutez très bien, si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et qui n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, verset 16, s'il n'opprime personne, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, verset 17, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Verset 18, c'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Amen. Nous voyons ici que Dieu, à un moment donné, dit que un fils ne sera plus puni de façon automatique à cause de ce que son père a fait. Si un enfant décide de ne pas agir de la même manière que son père a agi en commettant des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu, il ne mourra point. Dieu, bien au contraire, le bénira. Donc, à ce niveau, même si un enfant est un enfant illégitime, s'il commence à pratiquer la parole de Dieu, à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, Dieu dit qu'il ne le punira pas à cause de ses parents, à cause de son père, ou même à cause de sa mère. Donc, désormais, À partir d'aujourd'hui, chacun écrit sa propre histoire. Oui, chaque enfant peut écrire sa propre histoire s'il a conscience de ce que Dieu dit dans sa parole. Et le verset 19 va continuer en disant ceci. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Donc la parole de Dieu est suffisamment claire. Chacun doit désormais récolter ce qu'il a semé. Donc si un fils, même s'il est illégitime, décide de semer le bien, de semer la crainte de Dieu, de semer la volonté de Dieu, il va récolter tout simplement les bénédictions de Dieu dans sa vie. Donc désormais, ce n'est pas parce que on est un enfant illégitime, ce n'est même pas parce que on est né dans une famille où les gens ne connaissent pas Dieu, où les gens font des mauvaises pratiques, qu'on est obligé de porter les conséquences de leurs actions. C'est tout simplement parce que les gens ne se tournent pas vers Dieu et continuent dans la même lancée que leurs parents, qu'ils sont obligés de vivre toujours sous la malédiction, en portant toujours sur eux les péchés de leurs ancêtres, de leurs parents, les malédictions de leurs parents et de leurs ancêtres. Dès que quelqu'un se tourne vers le Seigneur Jésus par la foi, désormais tous ces liens de malédiction seront brisés, parce que désormais chacun va récolter ce qu'il a semé. Donc si un fils, même s'il est illégitime, décide de semer le bien, de semer la crainte de Dieu, de semer la volonté de Dieu, accepte le Seigneur Jésus, cette personne sera sauvée, sera délivrée et sera bénie, même si son père continue toujours à faire le mal. Et nous pouvons également lire dans Romains chapitre 10, l'épître aux Romains, chapitre 10, le verset 11, « Quiconque croit au Seigneur ne sera point confus. » Verset 12, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. La Bible nous dit ici que le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et quiconque l'invoque sera sauvé. Donc, c'est à chacun maintenant de décider d'écrire sa propre histoire. Donc, que quelqu'un ne dise plus, si je suis ce que je suis, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mes parents. C'est vrai qu'ils ont fait des choses qui ont influencé négativement votre vie, votre futur, votre avenir. Mais vous pouvez renverser les choses, tout simplement en croyant au Seigneur, tout simplement en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Et nous sommes en train d'ouvrir un grand chapitre sur la famille. Et nous vivons dans un monde où il y a tellement de problèmes. Et lorsqu'on examine de très près, on se rend compte que s'il y a des problèmes autour de nous, c'est tout simplement parce que la famille est dans les problèmes. Quand la famille va mal, la société ira mal. Oui, quand la famille va mal, la société ira mal. Et les choses vont mal tout simplement parce qu'on a mis de côté Dieu et sa parole. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Et lorsqu'on met de côté ses précieux conseils, sa parole, ses lois, les conséquences vont être dramatiques. La Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est pour cette raison que j'ai particulièrement jugé nécessaire de partager avec vous sur la famille à la lumière des Saintes Écritures. Et lorsqu'on parle de la famille, on ne peut pas ne pas parler du père, de la mère, ou bien du mariage. Parce que selon le plan de Dieu, lorsqu'on parle du père et de la mère, avec des devoirs, des responsabilités, on parle forcément du mariage. C'est vrai qu'une série d'émissions avait été consacrée au mariage sur cette même antenne. Mais puisque nous sommes en train de parler de la famille, nous sommes obligés d'y revenir un tout petit peu, même si nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Si vous voulez écouter ces émissions passées avec des détails, entrez tout simplement en contact avec nous. Tout cela vous sera offert gratuitement. Et oui, je disais tantôt que nous ne pouvons pas parler de la famille sans parler du mariage. Et nous allons dire quelques mots sur le mariage avant de continuer. Puisque tout commence par là. On ne peut pas parler des enfants selon le plan de Dieu sans parler du mariage du père ou de la mère. Déjà, dans le livre du commencement, Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 28, nous pouvons lire ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc nous voyons que depuis la Genèse, le livre du commencement ou des commencements, Dieu a créé l'homme et la femme en les donnant comme mission de procréer et de remplir la terre. Donc nous voyons déjà que la famille était déjà dans le programme de Dieu depuis la Genèse, le livre du commencement. Donc Dieu avait déjà en vue la famille. Lorsqu'il crée l'homme et la femme, il est dit expressément de se multiplier et de remplir la terre. Donc il devait avoir des enfants. En passant, nous voyons bien que Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et l'homme ou la femme et la femme. C'est pour mettre en garde tous ces homosexuels et ces lesbiennes qui veulent se détourner du plan parfait de Dieu et se frayer des chemins tordus qui ne mènent qu'à la ruine et à la perdition. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des relations entre homme-homme et femme-femme. C'est ce que nous voyons déjà depuis le commencement dans Genèse. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, ce chapitre est consacré au mariage. Comme nous avons déjà eu à partager sur ce sujet, nous n'allons pas revenir sur certains détails. Mais nous allons quand même toucher quelques points en passant, le divorce, la fidélité, les responsabilités des maris et femmes. Parfois des bons exemples, des mauvais exemples aussi. Et aussi, la sexualité dans le mariage. Parce que la Bible en parle, mesdames et messieurs. Oui, la sexualité dans le mariage. Nous allons également toucher ces points. Déjà, nous voyons depuis le livre du commencement que c'est la parfaite volonté de Dieu qui est la famille sur la terre. Donc la famille n'est pas une invention humaine. Et nous voyons que le mariage fait également partie du programme de Dieu. Si nous restons dans Genèse, cette fois-ci le chapitre 2, La Bible nous dit, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable, qui est Ève, bien entendu. Et le verset 24 va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Verset 24 de Genèse, chapitre 2. Donc nous voyons déjà là l'idée du mariage qui est en train de s'implanter dans la Genèse. Donc pour dire que le mariage n'est pas également une invention de l'homme. La famille n'est pas une invention de l'homme, le mariage non plus. C'est Dieu lui-même qui est le concepteur. Et il est bien placé pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous éduquer à ce sujet. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va également en parler. Si nous lisons par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 4 au verset 6, oui, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 4 au verset 6, nous pouvons lire ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sait pas parce que Dieu a joint. Amen. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ revient également sur ce qui s'était déjà dit dans Genèse. Donc, nous voyons que Dieu est vraiment le concepteur du mariage. En passant, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, pour parler véritablement du mariage, il faut que l'homme quitte, et la femme, bien entendu, son père et sa mère. Donc, il faut se détacher des siens. Parce que beaucoup ne pourront jamais réussir leur mariage parce qu'ils ne se sont pas encore détachés. Que ce soit de leur père ou de leur mère. Parce que quand la Bible parle de quitter, donc il faut quitter, il faut se détacher pour aller former sa propre famille. Et quitter ici, ce n'est pas tout simplement physique. Parce que beaucoup ne sont pas forcément sous le même toit. Mais leur mariage est tout simplement téléguidé par les parents à distance, ce qui n'est pas normal. Sachez vraiment que Dieu voudrait que l'homme et la femme se détachent de leurs parents pour former leur propre famille. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent plus influencer par les parents. Oui, les couples ne doivent pas laisser les parents s'ingérer dans les affaires n'importe comment. La plupart du temps, les mariages qui se foient, quand on étudie, ce sont les parents qui, parce qu'ils sont en train d'interférer dans les problèmes du foyer, qui détruisent les foyers. Donc, soyez sous vos gardes, vous tous qui êtes mariés. Ne permettez plus à vos parents de s'ingérer dans vos affaires n'importe comment. C'est ce que Dieu a dit depuis le commencement. Et il faut que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Mettez des limites. Nous ne pouvons pas ignorer les avis et les conseils de nos parents. Mais il faut savoir mettre les barrières et les limites qui ne doivent jamais franchir, mesdames et messieurs. Sinon, un jour, vous allez payer les frais en vous rendant compte que ce sont vos propres famille, vos propres parents qui ont détruit vos mariages. Si le Seigneur permet, j'y reviendrai spécialement. C'était juste en passant. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, Hébreux chapitre 13, le verset 4, nous pouvons lire ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous. Donc Dieu veut que le mariage soit honoré. Parce qu'il est le concepteur. Et tout ce que Dieu a conçu est bon. Il suffit seulement de se tourner vers lui pour être guidé, pour être conseillé. Et Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et pour que le mariage soit honoré de tous, l'homme et la femme doivent savoir que Dieu, dans son plan parfait, n'a pas prévu le divorce. Aujourd'hui, notre société va également mal à cause des divorces. Parce que lorsqu'il y a divorce, les conséquences sont énormes. N'en parlons pas s'il y a des enfants. Les gens qui sont divorcés, parfois, traînent un traumatisme toute leur vie. Même s'ils ne peuvent pas l'avouer. Parce que normalement, dans le plan de Dieu, il ne veut pas avoir divorce. C'est pour cette raison qu'on doit beaucoup mûrir sa décision. On va beaucoup mûrir sa décision avant de s'engager dans le mariage. En étudiant le mariage dans tous ses aspects avant de s'engager. Parce qu'on s'engage sur ce chemin une fois pour toutes. Dieu, dans son plan, n'avait pas prévu le divorce. S'il y a divorce, c'est aussi parce que parfois beaucoup se précipitent sans savoir même exactement dans quoi ils mettent les pieds. Et c'est dans le mariage qu'ils découvrent beaucoup de choses. Malheureusement, parfois, se faisant tard. Et parfois, les conséquences, c'est le divorce. Donc, c'est pour interpeller tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Ne courez pas. Il ne sert à rien de courir. Il faut juste prendre son temps et étudier le mariage dans tous ses aspects, sous toutes ses coutures. Ainsi, en vous engageant, vous saurez dans quoi vous êtes en train de fouler vos pieds. Et quand vous savez dans quoi vous êtes en train de fouler vos pieds, vous allez savoir gérer tout ce qu'il y a derrière comme problème. Je disais que l'une des façons d'honorer le mariage, c'est déjà de savoir que Dieu n'a pas prévu le divorce dans son plan parfait. Par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 7 au verset 12, l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 7, je peux lire ceci pour nous tous. C'est pourquoi l'homme, c'est de la bouche du Seigneur Jésus, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Verset 8, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 10, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Maintenant, le verset 11 et le verset 12. Il est dit, celui qui répudie sa femme, qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Verset 12, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. C'est de la bouche du Seigneur Jésus. Donc, Dieu dit clairement que lorsqu'un homme répudie sa femme, et en épouse une autre, c'est l'adultère. Lorsqu'une femme quitte son mari et en épouse un autre, c'est également de l'adultère. Donc nous voyons que Dieu, dans son plan parfait, n'a pas prévu le divorce. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la famille, à la lumière des Saintes Écritures. Parce que la famille, c'est le socle des bases de la société. Et quand la famille va mal, la société ira mal. Et Romains, chapitre 7, les trois premiers versets nous disent ceci. Romains, épître aux Romains, chapitre 7, les trois premiers versets. Je vais lire ceci pour nous tous. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de telle sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Nous voyons clairement ici, la Bible nous dit que il n'y a que la mort qui brise les liens du mariage. Beaucoup ne le savent pas. Il n'y a que la mort qui brise les liens du mariage. La Bible nous dit que tant que votre partenaire est vivant, vous êtes liés. Même si vous ne vivez plus sous le même toit, vous êtes déjà liés par les liens du mariage depuis le jour que vous vous êtes mariés légalement aux yeux de Dieu. Nous sommes en train de parler du divorce. C'est également un problème dans notre société, puisque nous sommes en train de parler de la famille. Et 1 Corinthiens, chapitre 7, les versets 10 et 11. Écoutons attentivement. 1 Corinthiens, chapitre 7, les versets 10 et 11. Il est écrit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Donc la parole de Dieu est suffisamment claire. La Bible dit que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Mais s'il arrive qu'une femme se sépare de son mari, la Bible dit qu'elle demeure sans plus remariée. Parce qu'aux yeux de Dieu, elle est déjà mariée à une autre personne. Depuis le jour qu'elle a accepté de s'unir à cette personne. Et vice versa, bien entendu. Même si un homme, pour n'importe quelle raison que ce soit, répudie, chasse sa femme, Dieu dit qu'il doit demeurer sans plus se remarier. Parce qu'aux yeux de Dieu, il est déjà marié. Il n'y a que la mort d'un partenaire qui peut autoriser quelqu'un à se remarier. À la lumière des saintes écritures. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Si beaucoup le savaient, au lieu de chercher à divorcer comme si c'était l'amusement, ils devaient plutôt chercher à appliquer le conseil de Dieu. Quel est le conseil de Dieu? C'est également dans cette portion des saintes écritures que nous venons de lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Le conseil de Dieu au verset 11 dit ceci. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari ou vice versa. Ou qu'elle se réconcilie avec sa femme. Donc Dieu dit que lorsque il y a des problèmes qui peuvent amener un couple à se séparer, la solution de Dieu, c'est se réconcilier. Alléluia. Si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de nous intéresser à la famille. Et nous sommes en train de toucher d'abord le mariage. Quelques points en passant. Nous savons également que si la société va mal, c'est parce que dans nos familles, il y a beaucoup d'infidélité. Oui, beaucoup d'infidélité. Lorsqu'un homme abandonne sa femme pour vivre avec des maîtresses ou vice-versa, lorsqu'une femme abandonne son mari pour suivre des hommes par-ci, par-là, il y aura forcément des conséquences négatives qui vont se répercuter dans la famille et dans la société. C'est pour cette raison que la Bible encourage la fidélité dans le mariage. Dans Proverbes, chapitre 5, le verset 20, nous pouvons lire ceci. Vous êtes encouragés à relever ces versets et après prendre tout votre temps pour pouvoir les vérifier, mesdames et messieurs. Proverbes, chapitre 5, le verset 20. Je peux lire ceci pour nous tous. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? La Bible pose cette question. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Comment est-ce que tu vas abandonner ta femme pour embrasser le sein d'une autre femme? Et Hébreux, chapitre 13, le verset 4, que nous avons lu tout à l'heure, nous allons lire la deuxième partie. La première partie disait que le mariage soit honoré de tous. Voici ce que la deuxième partie va dire, Hébreux 13, le verset 4. Et que le lit conjugal soit exempt des souillures, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. La Bible dit que faites attention au lit conjugal. Beaucoup vont jusqu'à commettre l'adultère, non seulement dans la maison, mais même sur le lit conjugal, ce qui est terrible. Dieu dit qu'il jugera cela. Faites attention, mesdames et messieurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10, nous pouvons lire ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Je lis ceci pour nous tous. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Donc vous qui êtes en train de commettre l'adultère, qui êtes en train de tromper votre femme, votre mari, Dieu dit qu'attention, ne vous y trompez pas, vous n'hériterez point le royaume des cieux. Donc si vous ne vous repentez pas, si vous n'abandonnez pas ce péché, pendant qu'il est encore temps, le jugement de Dieu vous attend. Et le temps de feu. Si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu après le jugement dernier, vous serez de l'autre côté pour souffrir éternellement. Mais Dieu voudrait que vous puissiez vous repentir pendant qu'il est encore temps, vous qui êtes dans ce péché. Et voici ce que Proverbes chapitre 6 va nous dire au verset 32. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Amen. Proverbes 6, le verset 32. La Bible nous dit que cette personne qui commet l'adultère est dépourvue de sens. Et si vous voulez vous perdre, vous pouvez agir de la sorte. Donc, c'est un chemin de la perdition. Donc, même si votre mari ne sait pas ce que vous faites, même si votre femme ne sait pas ce que vous faites, Dieu dit que si vous voulez vous perdre, continuez sur ce chemin. La perdition vous attend. Nous sommes en train de parler du mariage qui fait partie de ce point concernant la famille. Et comme promis, nous allons également parler du mari, de la femme, de leurs responsabilités, selon les saintes écritures. Si nous restons dans Proverbes, mais avant de lire cette portion des saintes écritures, mesdames et messieurs, je vous encourage à rester tout simplement à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler de la famille, nous sommes en train de parler du mariage et cette fois-ci nous sommes sur les responsabilités des uns des autres, du mari et de la femme, bien entendu. Dans Proverbes, chapitre 5, les versets 18 et 19, nous pouvons lire ceci. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Amen. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, nous pouvons lire ceci. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Je lis ceci pour nous tous. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Amen. Donc nous voyons ici la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est de l'aimer comme lui-même, comme son propre corps. Voilà ce que Dieu dit à l'homme. Et de l'autre côté, Dieu va aussi s'adresser à la femme. Mais un dernier verset que Dieu utilise pour adresser ce message aux hommes. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, qui dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la. Alléluia, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Donc, la Bible dit ici aux hommes, aux maris, de savoir que la femme est avant tout un sexe faible. Donc, ne vous fiez pas à ces femmes qui veulent devenir des hommes. Même si une femme fait le service militaire, même si elle fait le kickboxing, la Bible dit qu'elle est un sexe faible. Et l'homme doit le savoir. Et c'est ainsi que l'homme doit savoir comment la prendre. Oui, l'honorer. C'est vrai que nous sommes dans un monde où certaines femmes veulent devenir des hommes. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. La femme ne deviendra jamais homme. Et l'homme non plus ne deviendra jamais la femme. Et à la femme, Dieu dit ceci. D'abord, dans Genèse chapitre 2, le verset 18, où nous avons lu tout à l'heure que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme doit savoir qu'elle est avant tout une aide et non une concurrente, une rivale. Beaucoup de femmes ne savent pas que Dieu les a créées avant tout comme aide et non rivale et concurrente. Beaucoup veulent rivaliser avec leur mari à la maison. Madame, ça ne marche pas de cette façon. Vous avez été créée comme aide avant tout et non une rivale, une concurrente. Donc ne rivalisez pas avec votre mari. Il est le chef selon le plan de Dieu. Vous pouvez revendiquer beaucoup de choses de plusieurs manières, mais n'entrez pas dans un esprit de rivalité et de concurrence. Ça ne marchera pas. En le faisant, vous êtes déjà en train de déshonorer Dieu, même si votre mari vous laisse faire. Et dans Proverbe 31, à partir du verset 10, la Bible va nous décrire la femme vertueuse. Oui, la femme vertueuse. Proverbe 31. Il est écrit ceci à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent des forces sereines et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres La loue, amen. Nous voyons ici une description de la femme vertueuse. Et lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons que les femmes ont besoin d'une certaine libération pour pouvoir être à la hauteur. Beaucoup de femmes font beaucoup de choses, revendiquent beaucoup de choses, sauf être des femmes vertueuses selon les saintes écritures. Compte tenu du temps, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, mesdames. Le Seigneur le permettant, nous allons continuer à nous intéresser à la famille en touchant des points qui vont nous amener tous à changer d'attitude afin de pouvoir influencer positivement notre société, étant donné que la famille est tout simplement la cellule de base de la société. Pour vous servir, mesdames et messieurs, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur bénisse notre ville, que le Seigneur bénisse notre nation. Et à bientôt. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.